VOA Afrique, les infos à Washington.
Dilly Dico avec vous pour ce bulletin d'information. Il est 15h à Washington et 19h en temps universel. Bonsoir. Le régime militaire au Niger s'est dit ouvert à une résolution de la crise par la voie diplomatique, a rapporté dimanche le chef d'une délégation de religieux nigérians au lendemain de sa visite à Niamey. Le général Abdourahmane Tchiani a déclaré que sa porte est ouverte pour explorer la voie de la diplomatie et de la paix afin de résoudre la crise, a affirmé dans un communiqué le cheikh Balalaou à la tête de cette mission de médiation menée avec l'accord du président du Nigeria, Bola Tinubu, également président en exercice de la CDAO. La mission des Nations Unies au Mali, MINUSMA, a annoncé dimanche avoir anticipé son retrait d'un camp dans le nord, objet de tension entre l'ex-rébellion Touareg et la junte en raison de la dégradation de la sécurité dans la zone. La MINUSMA a anticipé son retrait de Ber en raison de la dégradation de la sécurité et des risques élevés que cela fait peser sur les casques bleus, affirme-t-elle, sans précision sur la date de départ initiale ni les effectifs. Le départ de Ber des casques bleus burkinabés qui l'occupaient a été programmé dans le cadre du retrait de la MINUSMA du Mali d'ici la fin de l'année. Par ailleurs, 6 soldats maliens ont été tués dans une attaque djihadiste survenue vendredi dans le nord du pays, selon un nouveau bilan publié samedi par l'armée malienne. Le bilan des affrontements a évolué et abouti à 6 soldats morts et 4 blessés, alors que les groupes armés terroristes, dans leur débandade, ont abandonné 24 corps, 18 AK-47, des fusils d'assaut Kalachnikov et 12 motos, précise le communiqué de l'armée.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique, 24h sur 24, à Lomé, sur 102.3 FM.
Une unité de surveillance du littoral marocain a intercepté samedi une embarcation transportant 130 migrants clandestins sénégalais qui s'est échouée au niveau de Dakhla, au Sahara occidental, selon une source militaire marocaine. Cette pirogue a pris la mer à partir de la localité de Fastboy, près de Thiès, au Sénégal, et comptait rejoindre les îles Canaries en Espagne, a ajouté la même source. Le pape François a déclaré aujourd'hui que le décès de migrants en Méditerranée sont une plaie ouverte dans notre humanité après une série de naufrages meurtriers. Lors de la prière hebdomadaire de l'Angélus, le pontife de 86 ans a dit prier pour les 41 personnes portées disparues cette semaine, selon des témoignages de 4 rescapés secourus en mer et débarqués mercredi sur l'île italienne de Lampedusa. En Espagne, la police a annoncé ce dimanche avoir démantelé une organisation criminelle qui organisait le transfert de Syriens depuis le Liban jusqu'en Espagne, en Allemagne et en Norvège à travers 3 continents. Au total, 19 personnes suspectées d'appartenir à une organisation criminelle et favorisant l'immigration illégale ont été arrêtées et 6 d'entre elles placées en détention provisoire. La route migratoire traversait 3 continents, l'Asie, l'Afrique et l'Europe, par voie aérienne, maritime et terrestre, pour laquelle chaque migrant payait 20 000 euros, presque 22 000 dollars, a précisé la police espagnole. Un peu de foot maintenant, la star du PSG, Kylian Mbappé, écarté depuis plusieurs semaines par sa direction en raison d'un conflit contractuel, a été réintégré à l'équipe première, a annoncé le club parisien dimanche. Le PSG a indiqué avoir pris cette décision après des discussions très constructives et positives avec Mbappé. C'est la fin de ce bulletin d'information. C'était Dilly Dico à la présentation. Merci pour votre fidélité au programme de VOA Afrique. Je vous retrouve dans une heure. À très bientôt.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
et tradition.
Vérité et doctrine.
Le dialogue des religions.
Sur la voie de l'Amérique.
Bonsoir et bienvenue dans le dialogue des religions. Eric Manilakis avec vous. Ce soir, nous plongeons dans les moments des journées mondiales des jeunes à Lisbonne, au Portugal. Un rassemblement inégalé réunissant 1,5 million de jeunes du monde entier dans une célébration de foi et de fraternité. Pour en parler, nous accueillons deux invités. Tout d'abord, le père Steve Mike Nyonguru, lui-même jeune et qui a été au cœur de cet événement majeur. Père Steve, bonsoir.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous vos auditeurs.
Nous sommes aussi avec un spécialiste éclairé des religions, Benoît Eliawa Zimbambi Kungua, président du Centre de recherche pluridisciplinaire sur les communautés d'Afrique noire et des diasporas, basé à Ottawa au Canada, auteur de la théologie négro-africaine contemporaine. Benoît, bonsoir.
Bonsoir Eric et bonsoir à toutes les auditrices et auditeurs.
Je souligne que vous êtes auteur d'un livre captivant sur le pape François intitulé « Le pape François de Laudato si a Fratelli Tutti ». Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé. Merci.
Bien prononcé, oui.
Merci d'être avec nous et bienvenue encore une fois dans le monde des journées mondiales des jeunes. Lionel Lunanila Gahima assure la mise en onde. Alors, je commence avec vous, Père Steve. Pouvez-vous partager un moment marquant ou une expérience personnelle qui a profondément touché votre foi pendant ces journées mondiales des jeunes? Je rappelle que vous rentrez justement de ce séjour à Lisbonne.
À peine, je suis arrivé il y a moins de 48 heures, en fait, de Lisbonne. Et au-delà de l'expérience de foi personnelle, ce qui m'a touché, c'est vraiment la soif d'absolu de la part de ces millions de jeunes, de ces milliers de jeunes qui étaient là, qui venaient d'un peu partout. Il faut savoir qu'il y a plus de 180 pays, mais vraiment du monde entier, même des communautés les plus reculées, même si alors, tout le monde n'a pas pu participer comme prévu. Mais cette rencontre, cette fraternité, c'est le seul événement, mis à part les compétitions de football ou de Jeux Olympiques, où les jeunes se rencontrent, où ils échangent autour de leur foi, mais aussi autour de leurs aspirations. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Et une rencontre très fraternelle, alors qu'ils ne parlent pas ni la même langue, ils ne vivent ni la même situation. Et cette soif, je l'ai vécue au plus près, parce que j'avais la chance d'accompagner un grand groupe de près de 1000 personnes. Alors, je n'étais pas le seul prêtre et le seul accompagnateur, mais voilà, on a pu écouter les jeunes, on a pu prier avec eux. Et cette soif d'absolu dénote leur vision du fait que ce monde n'est pas que matérialiste, il y a autre chose, quelque chose de plus transcendant et quelque chose finalement qui rassemble tout le monde au-delà des différences de race, de culture et même parfois de religion. Voilà.
Quel message ou enseignement du pape François faut-il retenir lors de cet événement, Père Steve?
Alors, il a donné plusieurs messages, mais moi je retiens, l'homélie conclusive de la messe finale où il disait aux jeunes, n'ayez pas peur de rêver grand, parfois vous avez l'impression que vos aspirations ne sont ni entendues, que vos rêves ne s'accomplissent pas, mais sachez que le Seigneur vous fait confiance et il vous regarde. Alors n'ayez pas peur ni de rêver, ni d'agir. Soyez les témoins de vos propres aspirations et agissez concrètement dans le monde. Et j'aimerais terminer en puisque nous sommes avec quelqu'un qui a écrit quand même un très beau livre, de Laudato si a Fratelli Tutti. Les deux thèmes étaient très très présents dans les cycles d'enseignements qu'ont donné les évêques, notamment l'archevêque de Kinshasa sur l'écologie intégrale, sur l'amitié sociale des peuples. qu'abordent les deux encycliques citées dans ce livre du pape François. Je me permets vraiment de vous tendre la perche, cher ami auditeur, cher invité.
Merci, Père Steve Nyonguru. Benoît, Père Steve vient d'anticiper un tout petit peu sur ma question. Votre livre explore la vision unique du pape François et comment sa participation aux Journées mondiales des jeunes s'inscrit-elle dans cette vision?
Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Comme le Père Steve vient de dire, je crois que je commencerai par peut-être ouvrir rapidement trois perspectives d'interprétation de cette journée qui vient de se passer. D'abord, une perspective, je veux dire, théologique, hein, où le pape agit comme vicaire du Christ, et effectivement, c'est toute l'Église mondiale qui était réunie à Lisbonne pour écouter un message qui a un poids de transcendance, un poids de spiritualité. Et il fallait voir cet engouement des jeunes, hein, à écouter ce pape, bon, vieillissant, mais ce pape joyeux d'être au milieu d'eux, pour leur dire que Dieu accueille tout le monde. Hein, ça, c'est la perspective théologique. Le pape qui agit comme vicaire du Christ dans l'Église terrestre. Et sur cette même perspective théologique, il faudrait peut-être signaler, comme le père vient de le dire, la soif spirituelle des jeunes. La plupart des jeunes, hein, souvent ils sont immigrants, exemple les chrétiens d'Irak, de l'Iran, hein, ont témoigné que dans leurs épreuves migratoires, le Christ est au cœur de leur vie. Ça, c'est la perspective théologique. Mais il y a aussi la perspective géopolitique et mondiale, hein, qui transparaît dans les prises de parole du pape. Rapidement, l'Espagne et le Portugal, on va faire un petit recul rapide dans l'histoire, c'était deux royaumes qui étaient comme le bras séculier du pape. Hein. N'oublions pas la théorie de la découverte, c'est la théorie où le pape divise le monde en deux. Donc la géopolitique se montre aussi du fait que Lisbonne, dans les crises migratoires en Europe, enfin, le pape en a beaucoup parlé, c'est là qu'il y a beaucoup d'immigrants, de réfugiés, et l'Église du Portugal est au cœur de cet accueil des réfugiés qui occupe tant le cœur du pape. Et enfin, la perspective, j'appelle ça une révolution franciscaine, une révolution prophétique, c'est-à-dire, il y a quelque chose de très puissant, d'exceptionnel et même de visionnaire avec ce pape, parce que d'une part, le pape, il incarne le pouvoir institutionnel, hein, du vicaire du Christ, mais en même temps, il est en train de jouer un rôle éminemment prophétique, charismatique, révolutionnaire, au sens où même dans l'avion qu'il ramenait de Lisbonne vers Rome, il a encore dit, et l'Europe, ne fermez pas vos portes, ne fermez pas vos portes aux migrants, la vieille Europe, ouvrez largement vos portes. Et là, il a fait rappel au Portugal, qui était avec l'Espagne des grands royaumes, hein, la mer, Lisbonne au bord de la mer, c'est l'ouverture au monde. Donc, ces trois approches théologiques, géopolitique mondiale et révolutionnaire, tout à fait sont dans le cadre de ces deux encycliques. Non seulement Laudato aussi, l'écologie intégrale montre aussi que, comme disait le Père, il n'y a pas que le matériel et la consommation. Le monde, c'est un don de Dieu, et nous, comme créatures, nous ne pouvons pas créer une attitude, une culture coloniale, une culture de l'exclusion, de la violence, dans un monde que nous n'avons pas créé, mais nous l'avons reçu comme maison commune. Et aussi pour Fratelli Tutti, c'est l'amitié, hein, politique, la fraternité universelle. Et là, tout à fait, les deux encycliques sont tout à fait comme le testament de ce pape qui met au cœur de sa lutte, au cœur de son ministère, à la fois l'annonce de l'Évangile, mais avec une option préférentielle pour les pauvres. Voilà ce que je dirais dans un premier temps.
Oui, Benoît, pouvez-vous partager un exemple concret de la manière dont le pape François a influencé positivement la jeunesse catholique et son engagement dans le monde d'aujourd'hui?
Tout à fait, Eric. Alors moi, je crois que je me limite à la réception le mercredi passé, je crois, à l'Université catholique du Portugal. Là, vraiment, c'était vraiment comme un concentré de ces JMJ, à mon avis. Pourquoi? D'une part, hein, d'abord, la rectrice qui l'a accueillie, Madame Isabelle Capello-Agil, elle est connue, hein, elle est traduite dans plusieurs langues, et travaille sur les études culturelles, avec une focalisation en diversité des conflits, diversité et migration. Et en présentant l'Université catholique au pape, rapidement, il a dit que, Saint-Père, nous sommes une université en sortie. Ça signifie que nous ne nous limitons pas à nous reproduire comme une institution d'élite, mais nous initions nos étudiants à s'impliquer dans le soutien aux réfugiés, qui sont nombreux ici au Portugal, aux migrants. Et même, il y a ce qu'on appelle le soutien du fonds Pape François. Il y a un fonds qui accueille les étudiants qui sont dans des fragilités sociales, économiques, les migrants. Et quelques-unes d'entre elles, une iranienne, une irakienne, et puis une autre chinoise, ont témoigné. Ça, c'est un. Et puis, deuxièmement, toujours dans cette église en sortie, qui est aussi une université en sortie, l'université catholique, quand les jeunes ont parlé, ils ont dit que nous engageons aussi dans les périphéries. Ça, c'est la théologie du pape, aller vers les pauvres, vers les périphéries, vers ce qu'on appelle comme les déchets de la mondialisation néolibérale. Et la question qui a été tout à fait décisive, c'est que les jeunes ont pris conscience que la formation à l'université doit être ouverte aux défis de la pauvreté, de l'exclusion, aussi des migrants. Et ça, à l'Université catholique du Portugal, on voyait aussi la spiritualité jésuite de ce pape. Vous voyez, par exemple, sans aller dans les détails, le pape, il est en train de prolonger le tournant de la prophétie que Jean-Paul II a commencé. Pourquoi je dis cela? Parce que même dans l'avion qui le ramène encore, tout le temps il revient sur les migrants africains qui échouent sur le Sahara et qui tombent dans la Méditerranée, qui est devenue un grand cimetière mondial. Ça, ça le tient à cœur, et en disant cela, il voulait montrer que la foi chrétienne n'est pas une glose, elle n'est pas des idées. C'est une personne vivante qui s'appelle Jésus-Christ, qui dit qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Et les jeunes, et ça c'est tout à fait bien visible partout, dans leur enthousiasme, dans leur fougue juvénile, ils étaient ouverts au message du pape. Je termine avec un exemple. Vous voyez, chaque fois, dans
les manifestations, oui,
que ce soit l'université, ou bien les bénévoles, ou bien la veillée avant le week-end, qu'est-ce qui se passe? Quand le pape a fini de parler, quand il veut bénir les jeunes, il met l'étole avant la bénédiction. On vient lui mettre l'étole, et puis on enlève. Mais ça, c'est important au niveau de l'Église, parce que si la crise de l'Église à l'Occident se vit différemment d'autres parties du monde, ici, on ferme les églises, les congrégations vendent les maisons, un modèle d'église est mort ici. Mais l'esprit agit, parce qu'en disant cela, ça signifie que le pape, non seulement il bénit, et même il a dit que dans les JMJ d'aujourd'hui, n'oublions pas les JMJ du ciel, c'est-à-dire Jean-Paul II qui a initié ce mouvement. Donc je crois que c'est surtout au niveau spirituel, les jeunes sont en quête du sens de la vie, et le pape, et ça je reviens sur cette dimension de la théologie, cette dimension théologique, liturgique, spirituelle, mystique, au sens où le christianisme n'est pas un agrégat d'idées, c'est une personne vivante. Et quand le pape bénit, il bénit les gens, il le fait au nom de l'autorité du Christ. Et cette autorité du Christ que le pape exerce, elle est là pour la gloire de Dieu.
Merci Benoît. Le dialogue des religions parle ce soir des journées mondiales de la jeunesse. Nous sommes avec le père Steve Nyonguru, qui est également doctorant en théologie dogmatique et fondamentale, et Benoît Awazi Mbambi Kungua, président du Centre de recherche pluridisciplinaire sur les communautés d'Afrique noire et des diasporas. Père Steve, les sessions confessionnelles avec des protestants et des orthodoxes ont ouvert des discussions enrichissantes, n'est-ce pas? Pouvez-vous nous donner un exemple?
Alors, c'est une des dimensions, effectivement, des Journées mondiales de la Genèse. En marge des grands rendez-vous avec le pape, vous avez plusieurs événements qui sont organisés dans toute la ville où a lieu les GMJ. À Lisbonne, on a eu effectivement plusieurs sessions œcuméniques. Je vous donne ne serait-ce que trois exemples marquants. Par exemple, le stade Benfica de Lisbonne, qui est le stade du grand club de la capitale, plus de 20 000 personnes se sont réunies pour une louange œcuménique, c'est-à-dire entre chrétiens, catholiques, protestants et orthodoxes, autour du nom de Jésus, et nous avons eu la participation exceptionnelle de grands noms, si vous voulez, de la louange, de pop louange, que ce soit des États-Unis, de France, mais aussi la participation de l'équipe du film The Chosen, qui est en ce moment la série autour de Jésus Nazareth. Et donc il y a eu des conférences, des questions autour de l'impact de Jésus dans le monde contemporain pour le jeune d'aujourd'hui. Alors il y a eu également une session écuménique avec la communauté du Chemin Neuf, qui a organisé plusieurs temps de prière, de louange et de témoignages. Les témoignages, c'est un élément extrêmement important des GMJ. Il faut entendre les jeunes, ce qu'ils vivent. Alors on a eu des témoignages assez extraordinaires d'anciens toxicomanes, d'anciens réfugiés, d'anciens migrants, comme en parlait tout à l'heure Benoît, et tout cela, des prières ensemble autour de la croix. Et nous avons également le chemin de croix, alors la Via Crucis du vendredi avec le pape. Bien sûr, elle est faite selon la structure catholique, mais c'est une prière à laquelle tous les chrétiens orthodoxes, protestants ou évangéliques peuvent nous se raccrocher. Et enfin, une autre dimension importante, c'est qu'au moment des grandes prières de louange, par exemple, vous pouvez avoir des chants catholiques, comme vous pouvez avoir des chants qui sont venus d'autres confessions. Par exemple, juste avant la messe de clôture, vraiment au moment du réveil des jeunes, quand tous les prêtres et évêques étaient en place, eh bien, on a joué Jérusalem, pour souligner la dimension universelle de la foi, Jérusalem, qui est un chant sud-africain. Et c'était très beau. Et voilà, il y a cette rencontre autour du Christ. C'est vraiment le Christ qui est le centre des JMJ, mais avec les préoccupations des jeunes. Voilà.
Oui, Père Steve, à la lumière de l'événement à Lisbonne, comment évaluez-vous le rôle du pape François en tant que pont entre différentes croyances et cultures?
Alors, je crois que vous venez de la réponse est dans la question. En tant que pontife, c'est un pont au sens théologique, c'est-à-dire qu'il va relier, en tant que vicaire du Christ, les fidèles au Seigneur. Mais il se veut, une des phrases vraiment récurrentes chez le pape François, pourrait relever aussi Benoît, c'est construisez des ponts et non pas des murs. Ça, il le dit plusieurs fois. Il l'a dit quand il était en Terre Sainte. Alors les ponts, c'est aussi entre les individus, entre les sociétés, entre les cultures, entre l'Occident, l'Orient, entre le tiers-monde et les pays dits développés. Eh bien le pape François, à travers notamment Fratelli Tutti, à travers toutes ces rencontres, il faut savoir, alors il s'inscrit certes dans la tradition de tous les papes, quand un pape fait un voyage apostolique, eh bien, non seulement il va d'abord rencontrer les autorités politiques et civiles, ça c'est au niveau de l'accueil. Et là, il a eu un discours très très fort au moment. Alors ça, c'était le mercredi quand il arrivait, en disant Europe, où vas-tu? Occident, où vas-tu? Toi qui proposes des solutions et des remèdes pour ne plus avoir affaire à des personnes âgées, toi qui élimine les enfants à naître. Discours extrêmement prophétique qui a été reçu comme une véritable gifle au gouvernement socialiste de Portugal, mais aussi à tous les courants au sein de l'Occident. Mais il faut savoir que le pape aussi rencontre souvent dans ces voyages apostoliques les communautés chrétiennes et les communautés de diverses religions pour insister sur le rôle des religions comme facteur de dialogue et comme ciment de fermentation sociale au sein de la société. Il s'est insurgé à plusieurs reprises sur l'usage du nom de Dieu dans les guerres, dans le fait d'exclusion, etc., en disant qu'on ne peut pas croire en Dieu et en même temps justifier la guerre, le meurtre au nom de Dieu. Et c'est dans ce sens-là qu'il va s'opposer, par exemple, à la guerre en Ukraine ou à divers conflits armés. Voilà, il est, ça fait partie de la vision du pape François. Mais pour le comprendre mieux, il faut savoir que le pape François lui-même est un fils d'immigré. C'est très important pour cerner le personnage. C'est-à-dire que non seulement il est jésuite, mais sa famille dans les années 30-40 a émigré de Piémont pour aller en Argentine. Donc c'est un Argentin, oui, mais lui-même fils et petit-fils d'immigrés. Donc la thématique lui est chère très personnellement, et c'est pour ça qu'un de ses premiers gestes a consisté, un de ses premiers voyages après avoir été élu pape, a consisté à se rendre sur l'île de Lampedusa qui accueille beaucoup de migrants, et il a déploré le fait que la Méditerranée soit devenue maintenant un cimetière de personnes migrantes qui fuient souvent des conditions terribles, la guerre, etc. Et voilà, donc il insiste sur cela régulièrement, parfois même à l'incompréhension de cette vieille Europe, comme il l'appelle. Alors, c'est vraiment quelqu'un qui vit ce qu'il dit, et ça c'est très important. Et d'ailleurs, il nous l'a rappelé au moment des GMJ, dans ses divers discours au niveau des jeunes, tout ça, pour nous rappeler que voilà, nous formons une seule fraternité humaine, et que cela est bien plus important que toutes les autres différences qui nous séparent. Nous assurons même honneur. Je veux dire, un jeune, il y avait un orchestre, ça c'est très beau à souligner aussi, un orchestre du une petite chorale du Zimbabwe qui a fait un concert où on était tous des milliers de jeunes. Il y a eu un match de foot, ça n'a pas été retransmis malheureusement, entre pèlerins de l'Iran et pèlerins des États-Unis, c'est incroyable. Il y a eu des embrassades entre Palestiniens et Israéliens, et c'est très beau. Il y a eu des plantations d'arbres, tout ça, ce sont des activités sur lesquelles on peut se retrouver en tant qu'humain au-delà de notre différence. Et le pape François, il est comme un booster pour cela, voilà.
Un pape que vous avez déjà rencontré et que vous avez serré la main, je souligne cela à Père Steve. Benoît, il nous reste très peu de temps. Les sessions interconfessionnelles marquaient-elles un tournant dans les relations entre les différentes branches du christianisme? Et en quoi cela reflétait-il les efforts du pape François pour l'unité? Si vous pouvez répondre à cela en une minute et demie.
Bon, alors, comme vous le dites, alors je crois que c'est tout à fait cette ambition, cette volonté de dialogue, pas seulement interreligieux, mais aussi à l'intérieur du christianisme. Hein, l'encyclique Fratelli Tutti est tout à fait basée sur ça. N'est-ce pas qu'il l'a publié en collaboration avec l'imam du Caire, voyez? Donc non seulement il y a une volonté du pape de se rapprocher avec les autres fois, monothéistes ou bien autres philosophies de la vie, au nom de l'unité du genre humain, mais d'autre part, au sein même des églises, il pousse l'œcuménisme en mettant le sens, le focus sur le discernement des esprits. N'oublions pas que c'est un jésuite. Hein, et on voit même quand il parle, on voit cette théologie des jésuites du discernement des esprits, hein, voir juger agir. Celui qui n'a pas contemplé le ciel n'a rien à dire à propos de Dieu. Et le pape nous le montre, vous voyez, vers la fin, il ne lisait pas ses discours, à cause de l'âge bien sûr, mais aussi il disait que je veux parler aux jeunes cœur à cœur. Et son message a gravité autour du fait qu'il y a de la place pour tout le monde chez Dieu, et tout le monde est aimé par Dieu tel qu'il est. Ça, il a beaucoup insisté aux jeunes de ne pas se décourager avec les crises de l'adolescence ou des adultes, les difficultés de la vie. Il a dit qu'il est conscient que la vie, ce n'est pas facile, mais la foi nous permet de marcher avec Dieu, parce que Dieu ne nous abandonne pas. Et je termine en disant que ce pape, il n'est pas seulement un pape de l'ouverture, mais au sein même de l'Église, il est contesté, il est combattu. Et je termine en disant que l'Église est dirigée à la fois par la hiérarchie, mais à la fois par le charisme du Saint-Esprit. L'Église est au service du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit ne cessera pas de nous surprendre, et François nous surprend dans le bon sens du terme. Et il annonce quand même, il annonce déjà sa succession. Ça dépendra de Dieu, mais je crois que le débat entre l'ouverture au monde et le repli sur soi sera au cœur du prochain conclave.
Merci Benoît, nous aurons entendu que les enseignements et les actions du pape François peuvent inspirer les jeunes à s'impliquer davantage dans des causes sociales et humanitaires. Merci Père Steve Nyonguru, Steve Mike, doctorant en théologie dogmatique et fondamentale, qui a participé à ces journées mondiales des jeunes à Lisbonne. Merci à Benoît Eli Awazimbambi Kongo, président du Centre de recherche pluridisciplinaire sur les communautés d'Afrique noire et des diasporas. Eric Manila qui a été avec vous. Lionel Lunanila Gahima a assuré la mise en onde. Excellente soirée et à la prochaine. Au revoir.